1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann pour l'émission Le Grand Tout. Vous écoutez Canal B. On va passer une heure ensemble si vous en avez envie. On retrouvera Nadia tout à l'heure pour quelques retours sur le festival Waterproof, festival de danse qui s'achevait ce week-end. Et puis aussi une interview de Clémentine Maubon qui parlera du spectacle Arôme Arôme. La session Info Concert tout à l'heure vous permettra de tout savoir sur les concerts qui ont lieu ce mercredi 11 février à Grabuge avec le groupe The Surfs, et puis du côté du Bistrot de la Cité pour la soirée Gina numéro 6 avec Unag Ains, Chien Fer et New Eight. Et puis deux nouveautés musicales pour commencer dans un instant notre disque d'or de la semaine, et juste après une nouveauté américaine et très country, d'ailleurs assez country aussi pour le premier morceau qu'on va écouter aujourd'hui. C'est extrait de l'album Out for Blood sorti le 6 février dernier pour l'américain Turner Cody avec The Soldiers of Love qui s'avère être des musiciens français puisqu'ils sont Nicolas Michaud et puis Clément Nourry et quelques amis américains de Turner Cody, grande figure de la scène anti-folk à New York dans les années fin 90, surtout 2000 jusque 2020, et il a préféré partir de New York d'ailleurs, Turner Cody, pour aller se plonger les pieds dans les bords du Mississippi. Il habite désormais à Saint-Louis, Missouri, et vous allez l'entendre avec une chanson qui sera certainement un futur de la country music. Vous allez entendre de la trompette, une ambiance un peu calexico, et puis une histoire écrite par les gagnants, nous dit-il, et des chansons country écrites par les pêcheurs. Voici le morceau Evening Prayer par Turner Cody and the Soldiers of Love. Bonne émission.
From here to there,
Country songs are written by the sinner. So save a morning prayer just for the singer. And save an evening prayer just for me.
Si nous étions dans le Missouri tout à l'heure, on était à l'instant dans le Tennessee avec Spencer Cullum, qui a réussi à trouver un peu de protection contre les bruits du monde et puis le déferlement de haine et de vitriol qui accompagne désormais notre quotidien, peut-être plus aussi encore dans le Tennessee. Un studio d'enregistrement improvisé où il a enregistré Coin Collection 3, et c'est là qu'on peut retrouver peut-être des inspirations qui sont très très folk, mais pas vraiment country. On est plutôt du côté de l'Angleterre, de la vieille Angleterre, je trouve, avec ce titre Rowan Tree, qui nous raconte l'histoire, conte populaire, assez tordu, hein, dans lequel un arbre attire les hommes cupides vers ses racines et les punit à sa guise. Ça renvoie vraiment au folk horror, The Wicker Man, évidemment. Très chouette morceau, Rowan Tree, par Spencer Cullum, un extrait de son album à venir le 27 mars prochain pour le label Full Time Hobby. Dans la page culture du Grand Tout aujourd'hui, on retrouvera Nadia tout à l'heure pour quelques retours sur le festival Waterproof. Et puis avant ça, eh bien, elle a rencontré Clémentine Maubon à propos du spectacle Arôme Arôme qu'elle donnait avec sa compagnie La Grive le 5 février dernier au Triangle. Et c'était juste après la représentation qu'elle a rencontrée. Et d'abord, Nadia va lui demander comment Clémentine a vécu la représentation, comment elle a perçu le public et comment le public a reçu le spectacle.
À chaud, moi j'ai vraiment eu l'impression là de beaucoup d'attention. En fait, il y avait beaucoup de familles, il y avait beaucoup de parents avec leurs enfants. Là, on est à une 20-25 dates et on se dit que les tout publics, quand il y a comme ça autant de parents et d'enfants, c'est assez jouissif parce qu'il y a autant d'attention et en même temps autant de partage. On voit les parents encourager leurs enfants à déguster, en l'occurrence là, des verres et puis aussi à savourer ce qui se passe, beaucoup d'attention de leur part et de douceur. Et c'est assez vivant, mais avec beaucoup de douceur.
La genèse de spectacle et la dégustation. Comment est née, en fait, l'idée d'Arôme Arôme, même s'il y a eu des prémices sur un précédent spectacle, mais comment vous est venue cette idée?
C'est ce que tu dis, c'est qu'il y avait Cépage dansant, qui était une dégustation dansée avec le vin, et qui tourne depuis 13 ans, là. Et on l'adore, cette pièce-là. On aime bien, avec Bastien, toujours faire des liens entre nos pièces, mais des liens assez forts. On avait travaillé sur une pièce qui était le ventre, et on est parti sur le cœur, et puis certainement peut-être dans une prochaine pièce, le dos. Et ben là, c'est pareil. Du coup, il y avait quelque chose en lien avec la dégustation, et on n'avait pas envie de s'arrêter là. Alors, on a pensé, dans un premier temps, à peut-être des tisanes, travailler plus sur des plantes. On n'avait pas encore fait de jeune public. Alors, on a une fille de l'âge de 7 ans. Et en fait, il s'avère que ce spectacle est à partir de 7 ans. Donc, il y a eu comme une évidence aussi à un moment donné où on s'est dit, mais en fait, c'est hyper intéressant de travailler sur les papilles de l'enfant et d'aller un peu plus loin là-dessus. Et on avait envie aussi, on avait envie de se marrer et d'aller chercher chez les enfants une petite fraîcheur aussi. donc voilà, elle est née de ça, cette histoire, et d'avoir aussi les enfants comme cépage dansant très proches de nous, pour être en lien direct avec eux et leurs sensations.
Vous travaillez souvent à partir d'une matière intime que vous transformez par l'exploration physique. Quelle a été ici l'origine du mouvement ?
Il s'est fait d'abord par avec Annabelle, la troisième danseuse. On n'avait pas eu l'habitude de travailler avec elle. En fait, on a d'abord créé des phrases où on a créé les uns et les autres des petits bouts de danse chorégraphique qu'on a mis bout à bout. Et ça nous faisait des grandes phrases chorégraphiques qu'on a beaucoup répétées. Et après, on a goûté des choses et on a parlé des qualifications de ce qu'on goûtait. On a rappelé notre œnologue et caviste qui travaille sur cépage dansant, parce que lui, en fait, il est né et qu'il nous a aussi décrit énormément de saveurs et d'arômes pour pouvoir les analyser et pour pouvoir être comme on faisait sur cépage, en fait, pour donner des qualificatifs à ce qu'on sentait ou ce qu'on ressentait en bouche. Et c'est les mêmes mots. Donc, en fait, on avait les mêmes qualificatifs pour pouvoir donner sens à nos gestes. Les choses sont venues comme ça. Donc, au début, on est parti sur des choses un peu larges, presque sucrées, salées, umami, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on a essayé de parler de densité, de matière, de trouver à l'intérieur encore plus de petites subtilités.
Il y a une expérience sensorielle, à la fois pour le public, mais pour vous aussi sur scène, puisque vous, on la partage. C'est donc une expérience multisensorielle. Elle fait appel à l'odorat, au goût, et puis au visuel, puisqu'on vous regarde. Comment la danse, elle permet à la fois d'explorer le goût et l'ensemble des autres sens, et inversement.
C'est sûr qu'on a travaillé, nous, sur ces va-et-vient. Là, on y met du jeu, on y met un peu de théâtre, et on y met des mots, et un peu de pédagogie au départ. Et on ne l'avait pas du tout, initialement, en tout cas au début, à la genèse de la création. Et il s'avère qu'on s'est dit qu'il fallait quand même introduire quelque chose par les mots, déjà. On a l'habitude de ça aussi. Les enfants, ils commencent à avoir l'habitude de ça à l'école, qu'on leur explique des choses. Et donc, on s'est dit, on part de ça. Et si on pouvait, au fur et à mesure, enlever les mots et arriver à plus sur les sensations ou sur juste des ressentis et de pouvoir ne plus parler et n'avoir que les gestes pour comprendre ce qui se joue. C'était notre but. Et tous ces va-et-vient, en fait, on les a explorés, surtout, sur toute la création. On a aussi travaillé avec quelqu'un qu'on connaissait pas à la musique, mais on savait quelqu'un qui travaillait sur le son et la matière. Et on a exploré énormément de choses, justement, au micro. On a fait des bruitages, justement, pour voir si on pouvait aussi, par le bruitage, trouver ce qu'on cherchait en bouche ou ce qu'on allait peut-être déguster ou pas. On a exploré tout ça. Donc, ça a fait des va-et-vient, parce qu'en fait, le son, c'est le corps, c'est quand même la voix. Et tout ça, ça fait partie du corps. Donc, le son raconte aussi beaucoup de choses. Et je crois que aussi à la fin, effectivement, on a un peu switché. C'est vrai qu'au début du spectacle, on déguste et après on danse ce que les gens dégustent. Et au fur et à mesure, on oublie et en fait, on voit les choses et peut-être qu'on arrive à deviner ce qu'on est en train de boire.
Déguster, c'est aussi prendre son temps. Ouais. Est-ce que ce spectacle, c'est aussi une invitation à ralentir ? Il est vrai qu'aujourd'hui, on va tellement vite que déguster, ça signifie prendre le temps, prendre le temps de lâcher. Peut-être.
Oui, au départ, on n'avait pas analysé cette dimension qui était presque politique. Et en fait, en cherchant, on s'est dit que bah oui, il y avait cette couche-là qui était assez évidente. Et surtout, proposer ça aux enfants aujourd'hui, à eux, c'était clairement un défi et un parti pris, bien sûr. C'est vrai que cette pièce, elle est longue. Ça s'impose. Ils ont 7 ans. On sait, c'est 50, 55 minutes. C'est pas rien. Mais on n'a pas le choix. C'est ce qu'on s'est dit. Et on s'est dit qu'on allait tenir avec ce qu'on, voilà. On avait plein de choses dans nos poches et plein de choses en main. Mais évidemment, on pouvait pas traiter tout ça de façon courte. En 30 minutes, c'était pas possible. Et puis c'était, l'eau, par exemple. Voilà, il y a un passage sur l'eau. C'était évident que là, c'était plus contemplatif, qu'on allait prendre ce temps-là. Et en fait, ça passe. Les enfants, ils trouvent ce moment très, très beau. Parfois, il y a beaucoup d'agitation, puis d'un coup, tout s'apaise. Ah oui, l'eau, en fait, c'est très, très bon. L'eau, ça fait du bien.
Je pense qu'aussi le public tient dans la durée parce qu'il n'est pas seulement spectateur, il est aussi acteur, en tout cas il le devient. Qu'est-ce que ça change pour vous dans l'écriture du spectacle, le fait que les spectateurs soient aussi un acteur du jeu ?
Ça change que c'est jamais pareil, que suivant les spectateurs, ça n'est pas pareil, suivant l'heure à laquelle on joue, c'est pas du tout la même chose. On a aussi vu, on a joué avant les vacances de Noël, les enfants, ils étaient fatigués. En même temps, je sais pas, ce spectacle, en fait, il invite, c'est ce qu'on se disait là, il invite à un moment donné à se déposer et à juste prendre ce qui se passe. Et comme ils sont acteurs, ils oublient, en fait, presque là où ils sont. D'ailleurs, ils oublient qu'ils sont au spectacle. Et c'est ça qu'on aime. Même si, au départ, il y a un protocole, on met un peu des règles, on met en place cette chose-là. C'est pas pour un cadre, c'est ça, c'est pas pour être autoritaire, c'est juste pour que ce cadre, on le sait, et il va être pété. C'est juste évident, mais c'est ça qui est chouette. Et c'est juste, on le pète, mais avec tout ce qu'on a préparé en amont. Et évidemment, c'est pas la même chose. C'est jamais pareil. Suivant les salles aussi, suivant les lieux. On a joué dans des salles des fêtes. On a joué dans des espaces immenses. où il y avait pas de mur en fait. Donc c'était aussi un écrin dans un voilà, dans un espace immense avec la réverb, avec ça raconte tout ça, ça raconte beaucoup.
Et ça veut dire aussi que vous laissez une place à une part d'imprévu en fait dans le spectacle.
Oui, en fait ce qu'on aime bien, je crois qu'on a tout écrit. On aime bien avec Bastien tout écrire. La part de l'impro, elle était avant et maintenant elle est faible, mais c'est justement pour ça, pour se dire qu'après on est prêt à tout et qu'il peut se passer plein de choses et nous on sait faire.
Sur la question de la dégustation, vous le dites, les enfants à 7 ans, ils ont à peu près tout leur sens. Qu'est-ce que ça crée quand il y a un mélange comme ce soir entre le jeune public, les enfants, et puis les adultes qui, eux, n'ont pas autant peut-être cette curiosité du goût. Qu'est-ce que ça change aussi pour vous dans les réactions ?
Ça change, évidemment, on avait très peur. je cache pas qu'on avait hyper peur parce que on fait des tout publics, mais c'est vrai qu'on a tout pensé pour vraiment ces spectateurs de 7 ans, on va dire à 10, 11 ans. Et on a étudié le palais précisément avec ces enfants-là, c'est-à-dire un palais sans souvenirs, sans encore de, on va dire, de banque de données.
Mais d'une mémoire.
Bien sûr, il n'y a pas cette mémoire-là. Alors, il y a des certaines, et c'est assez joli, on a joué là dans différents endroits déjà de la France. On voit qu'il y a des endroits où c'est multiculturel, beaucoup plus. Donc, on sent que par exemple là, on a des choses un peu piquantes, et tout ça, on sent que là, d'un coup, ça vient,
ça résonne,
c'est reconnaissable et ça fait sourire tout de suite, ça fait du bien. Et puis, à d'autres endroits, c'est pas le cas du tout. Et même, c'est l'inconnu total, ça fait peur, ça fait presque pleurer. Ça s'est passé aussi. Après, c'est ça aussi qui s'est rajouté, c'est la deuxième couche où on s'est dit, il y a toujours des adultes. Et en fait, moi-même, j'ai été surprise à regoûter les choses, à voir aussi les enfants. D'un coup, m'arrêter de me dire, mais eux, effectivement, ils n'ont pas ça. Eux, c'est hyper fort, alors que nous, c'est passé parce que nous, on a l'habitude. Ou alors, à l'inverse aussi, je sais pas, de la surprise. Et c'est vrai que les adultes, mais c'est assez, comment dire, c'est assez joueur. Là, on voit bien qu'en fait, là, sur ce spectacle, les adultes redécouvrent, en fait, les goûts et des sensations. Mais je pense parce que c'est justement le but du jeu et qu'il se passe des choses autour pour refaire renaître parfois des choses un peu oubliées où on n'a pas fait que choisir des choses qui étaient bonnes. Et ça, c'était, je crois que tout le monde s'attendait à ce que ce soit le cas parce qu'au départ, on avait aussi beaucoup parlé des choses en se disant qu'on allait trouver des choses subtiles, qui seraient bonnes en bouche. Et en fait, dans la recherche et dans le laboratoire qu'on a fait, on s'est dit que c'était, ça aussi c'était politique de ne pas aller que vers des choses qui sont bonnes, qui font du bien. C'était pas le but. Les goûts ont mis un petit temps quand même à se trouver. Je pense qu'au milieu de la création, on était encore sur certaines choses en question. On a cherché beaucoup l'amertume. Et ça n'a pas été évident du tout à trouver. On avait quelque chose, mais ce n'était pas dingue. Et on l'a mis de côté. Et en fait, on a plutôt justement été chercher quelque chose qui rebutait un peu, qui soit un peu dégoûtant, mais qui soit bon pour la santé. Mais que beaucoup aiment. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment le jus de choucroute. Voilà. Et ça, c'était intéressant aussi.
Alors que les adultes, ils ont fait globalement beurre.
Clairement. Mais clairement. Et grâce aux enfants aussi, on a fait plusieurs crash tests partout où on était en résidence pour tester justement là où on en était avec les goûts. On faisait ça, on faisait avec des classes, juste des tests. Et c'était super intéressant. Et en fait, dès la première classe qu'on a eue à Sarzeau, ils nous ont demandé, en fait, ils ne voulaient pas tester, ils ne voulaient pas goûter si ce n'était pas bio. Et ça a été... Pour nous, ça a été d'un coup, on s'est dit mais quelle question ? On s'était pas posé la question et ça a été une évidence. Et c'était les enfants qui nous ont amené cette chose-là vraiment sur le tapis en disant ah mais non mais moi en fait je bois pas ce qui est pas bio. Et on s'est dit bon ah bah tiens ça c'était un truc qu'on n'avait pas pris en compte qui est absolument aujourd'hui évident. Parfois on a eu il y a pas si longtemps on était dans le Nord et on a eu des classes qui nous disaient c'est quoi bio ? Ça aussi, c'était intéressant.
Sur l'écriture chorégraphique, évidemment, vous partez d'une même phrase chorégraphique qui se transforme selon les breuvages que vous allez ingurgiter ou faire ingurgiter aux spectateurs. Comment vous avez travaillé une danse qui dialogue avec des sensations aussi intime que le goût?
Ça, c'est une bonne question. On est très différents, Bastien, Annabelle et moi. Il y a eu des évidences, en fait, en traversant justement toutes les qualités, tous ensemble, avec cette fameuse phrase. Il y avait des évidences avec nos corps. Il y avait des choses qui étaient plus limpides et plus lisibles sur les corps pour les uns ou les autres. Et donc, ça a été de soi que nous avons donné le jus de choucroute à Annabelle. mais non, je rigole. Mais en même temps, effectivement, elle avait plus de torsion. Il y avait des choses qui étaient chez elle plus organiques. Et donc, voilà, ça allait de soi. Bastien est extrêmement tonique, a une personnalité de feu. Et donc, c'est pareil. Oui, bien sûr. Et en fait, il y a eu des évidences là-dessus. Et donc forcément, on a été chercher. Alors on s'est essayé à tout, hein. Mais et c'est ça qui était super chouette. Ça permettait d'ailleurs d'identifier des choses très claires. Mais ça, c'était aussi très. En fait, ça a été assez rapide. On a choisi qui allait faire quoi. Mmh. Il y avait des évidences et on a été approfondir ces choses-là. Et on a fait revenir aussi. Emmanuel Ménard, du coup, notre caviste œnologue, qui lui a un œil tellement, il a l'œil sur ses pages dansant, il nous le dit, il voit la danse, il dit je trouvais que le vin ce soir était un peu plus comme ça, tu vois, toi t'as été un peu plus vers là, moi j'aurais fait un peu plus ça. Et en fait c'est très clair quand il nous donne ces choses là. Et là aussi il est revenu donner son grain de sel et nous redire cette chose là, moi je dirais qu'elle est plus dans le sol ou elle est plus aérienne. Il est revenu en fait pour redonner des couches là-dessus, et qui était essentiel.
C'est annoncé dès le début, il s'agit à la fois d'un cabaret, mais aussi d'un laboratoire, vous le dites, c'est un laboratoire. On a presque l'impression d'assister à une forme de rituel. Cette dimension du cabaret laborantin, on va dire, j'aime beaucoup l'image qu'elle raconte de la démarche, le fait d'expérimenter, d'être dans un laboratoire, et finalement, nous, on est comme vous, on va tester. Comment c'est venu cette idée d'un cabaret laborantin?
Cette histoire de cabaret, elle était là dès le départ, parce qu'on voulait faire comme Cépage dansant. Cépage dansant, c'est la même chose. Les gens sont autour de nous en 360. Et le fait d'être qu'ils soient autour de nous et qu'ils soient si proches, ils voient tout. Les expressions, la peau, le grain de peau, la respiration. Parce que ça aussi, tout ça, c'est super beau et ça joue beaucoup. Le côté laboratoire, je pense que c'est au tout départ, parce qu'en fait, nous-mêmes, on savait pas où on allait avec ces histoires de goût. On savait ce qu'on voulait dire, on savait ce qu'on voulait essayer de faire passer, mais c'est vrai qu'avec ces goûts-là, on savait que de toute façon, ça allait susciter de la surprise, de l'étonnement, du souvenir, et qu'on voulait travailler sur cette chose-là. Il y a eu un moment donné aussi, la scéno, on l'avait pensé pas avec des verres. Là, il y a des petits verres de cantine qu'on connaît tous. Mmh. Et en fait, on voulait des tubes à essai. Il y a eu cette idée-là à un moment donné. Et on avait même eu l'idée de les servir à chaque fois. Parce que dans ces pages dansant, on sert chaque fois, chaque breuvage. Là, c'était beaucoup trop complexe. Ça allait durer très longtemps. Et cette idée d'avoir déjà prédisposé tous ces verres avec tous ces breuvages à l'avance, c'est super. Et finalement, quand on vient quand même servir, voilà, c'est cool, c'est plus festif et c'est bienvenu. Malgré tout, c'est ça, c'est qu'en fait, on voulait garder le fait que on cherche, cette histoire de chercher et de pas non plus, on n'apporte pas des réponses en fait à tout ça, juste des outils pour peut-être mieux analyser aussi la danse sur d'autres choses, mieux analyser ce qu'on a dans le palais, mieux analyser ce qu'on voit. Ce qu'on ressent, c'était de garder cette chose-là de recherche.
Vous travaillez à deux, tu l'as dit, vous êtes un couple à la scène et à la ville. Comment le dialogue entre vous nourrit l'écriture du spectacle, en tout cas de ce spectacle-là?
Avec Bastien, on se connaît depuis, on était en formation tous les deux et je pense que maintenant ça fait 17 ans. Et on était déjà en formation beaucoup tous les deux. Et il y avait une facilité dans le travail et d'échange. À la fois, on est hyper différents. On n'est pas du tout les mêmes, on n'a pas les mêmes personnalités. Et en fait, on se complète énormément, ce qui fait que le rebond, il est génial. Parce que, alors Bastien, c'est l'élan. Clairement, un élan rapide et moi, je suis très lente. À l'opposé, je suis plutôt lente et très ancrée. Et je peux pas répondre à ces demandes tout de suite, mais par contre, ça permet toujours de prendre un vrai temps pour analyser, comprendre ce que voilà, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on là où on pourrait aller, ce qu'on ne peut peut-être pas faire ou et du coup, ça c'est ce qu'on a dans la vie professionnelle, mais c'est ce qu'on est de toute façon dans la vie tout court. Donc voilà, on fait beaucoup de choses tous les deux, on fait ceux qui nous connaissent maintenant le savent, on va vite. Malgré tout, parce que quand il y a quelqu'un qui est dans un élan, ça va vite. Et on fait énormément de choses parce que c'est ça, parce qu'on se complète fort.
Par rapport à l'univers artistique, est-ce que ce spectacle, il s'inscrit dans une continuité pour vous, de vos créations, même si on l'a dit, effectivement, il y avait ces pages dansant. Est-ce qu'il marque un tournant? À quel endroit vous êtes dans votre, pour ceux qui vous découvriraient aussi, qui découvriraient la compagnie?
C'est pas un tournant, mais c'est une bonne étape avec ce spectacle. Alors, on n'a jamais fait de jeune public, déjà. Je sais pas si on en fera d'autres. Ça, c'est vraiment, ça a été une évidence pour cette chose-là. On avait l'idée et c'était l'idée qui nous a mené à ça. Après, c'est sûr que ça, on savait, Bastien, il a beaucoup travaillé avec le théâtre. Il a toujours eu une facilité dans le jeu. Et il a toujours voulu en mettre beaucoup. Moi, je suis pas du tout à cet endroit-là. Donc, justement, moi, j'ai beaucoup tiré du côté de la danse, peut-être plus contemplative, plus abstraite. C'est, voilà, là où on est très différents tous les deux. Mais il me semblait, là, complètement légitime et complètement juste, justement, de mettre là où il est, justement, très, très bon, avec toutes ces petites pincées de jeu théâtral et d'humour aussi, qu'on aime beaucoup tous les deux. Et que porte beaucoup Bastien, et là pour le coup au quotidien et au plateau. Mais donc ça paraissait assez évident que c'était là qu'il fallait le mettre, là on pouvait y aller. Et je pense que c'était bien fait et que c'était réussi de faire ça.
Dans les dernières questions, qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs emportent avec eux en quittant la salle?
Alors je pense pas que ce soit finalement une histoire de goût. C'est que le goût, c'est différent pour chacun. Et puis finalement, ce que chacun aura goûté, ça lui restera à lui. C'est culturel, donc ça nous intéresse d'ailleurs. On sait que peut-être Aromarum pourrait vivre à l'étranger. Et ce serait intéressant de voir comment ça pourrait se décliner aussi ailleurs. Ce serait, je pense que de toute façon, inévitablement, on ferait d'autres recherches pour ça. Et je pense que ce serait très intéressant. Mais je pense que c'est plus... ce qui va rester, c'est des sensations. Je pense que c'est ça. Même nous, en fait, on sort, on a eu des sensations. Il s'est passé des choses. Le regard des gens, là aussi, les gens parlent, les gens rient. Les enfants ont des réactions qui sont tellement spontanées. C'est ça qu'on garde à chaque fois.
Et donc, pour finir, la dernière petite question. De quoi vous avez envie pour la suite?
On a envie que tout ça dure. On a envie que tout ça dure, qu'on puisse le partager avec le plus de monde possible. Je pense pas avoir dit ça pour les autres pièces. Alors même si, toutes nos autres pièces tournent encore et je les aime tellement, énormément, et je voudrais qu'elles vivent encore. Mais celle-ci, je voudrais que tous les enfants, je voudrais que tout le monde la voie. Ouais, tout ce qu'on vit à chaque fois avec ça. Je pense aussi, on a la chance que la saison prochaine, cette pièce vive. On le sait déjà, probablement beaucoup. Et je suis très contente de me dire qu'aussi, on va pouvoir partager et transmettre ça à d'autres danseurs et permettre qu'elles vivent beaucoup et qu'aussi d'autres danseurs vivent tout ça avec nous et que d'autres enfants en profitent.
Après cette interview que nous proposait Nadia de Clémentine Maubon à propos de Arôme Arôme de la compagnie La Grive que tu as pu voir. Tiens, bonjour Nadia, tu es venue nous rejoindre d'ailleurs.
Bonjour Yann.
Bon, je fais comme si j'étais surpris. Non, un enregistrement fait après la représentation au Triangle pour Arôme Arôme. Et puis là, tu viens nous donner quelques retours autour de spectacles vus pendant le festival Waterproof qui s'en est allé pour cette édition 2026. On entendait quelques notes au début de cette séquence du Sacre du printemps. Tout ça pour nous parler de un spectacle que la loi considérera comme mien par Olga Dukovna.
Alors effectivement, il y a des spectacles qui déplacent le regard tout en réussissant à être à la fois intelligent et profondément joyeux. Celui d'Olga Dukovna est clairement de cet ordre-là. Sur scène, donc, la chorégraphe fait part d'une question simple mais vertigineuse. À qui appartient un geste ? Plutôt que de reprendre une chorégraphie, la ralentir, l'accélérer, la transformer et dire qu'elle est à soi, plutôt que de nous livrer un cours théorique, Olga Dukovna choisit une forme de conférence dansée. Et elle danse vraiment. Elle traverse des univers chorégraphiques très différents, on va aller du Sacre du Printemps à Beyoncé, avec une virtuosité impressionnante. Tout se passe par son corps, elle démontre, elle teste, elle joue avec les règles. Ce qui frappe immédiatement, c'est son humour. Un humour fin, parfois totalement absurde, qui crée un décalage permanent. À un moment, pour rester dans les clous de la loi, elle modifie une phrase chorégraphique, en l'interprétant volontairement ivre. C'est drôle, mais surtout redoutablement intelligent. On voit la règle se tordre en direct. Un autre moment marquant, lorsqu'elle exécute à toute vitesse une chorégraphie d'Yvonne Rainer, figure majeure de la danse postmoderne, qui refusait justement qu'il y ait une reproduction de sa chorégraphie sans une transmission officielle. Olga prend la contrainte au pied de la lettre et elle révèle un passage, l'étrangeté, parfois le cadre un peu juridique qui s'applique à l'art vivant. Car ici, la loi n'est pas un simple sujet, elle devient presque un partenaire artistique. On apprend beaucoup, d'ailleurs, même quand on croit connaître les questions des droits d'auteur, souvent d'ailleurs abordées sur le côté musical. Il est passionnant de les entendre dans le champ de la danse, où le geste est plus difficile encore à protéger. La pièce donc s'appuie aussi sur un éclairage juridique de Pauline Léger, qui est maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles, spécialiste de la propriété intellectuelle à l'Université de Paris-Saclay. Son approche est clairement universitaire. Elle n'est pas interprète, mais le dispositif l'assume pleinement. Et ce frottement entre la rigueur du droit et la liberté du plateau fonctionne très bien. Il rend les règles concrètes, visibles, parfois même légèrement absurdes. Impossible d'ailleurs de ne pas faire le parallèle avec la musique. Là où quelques secondes d'un morceau peuvent être citées ou samplées, comment protège-t-on un mouvement ? Une vitesse, une intention corporelle ? Le spectacle rend ces questions presque physiques. Et c'est là sa grande force, faire passer le droit par le corps. Si la dimension pédagogique est parfois très présente, presque démonstrative par endroits, elle a le mérite de révéler ce que la danse laisse souvent dans l'ombre, la circulation des gestes, la mémoire des corps, et peut-être l'impossibilité de créer sans héritage. Mais ce qui rend ce spectacle si attachant, c'est son énergie. Olga Dukovna dégage une liberté extrêmement communicative. Cette liberté d'ailleurs culmine à la fin du spectacle lorsqu'elle invite tout le public à monter sur scène pour un cours improvisé, puisqu'enseigner permet aussi légalement de reprendre une chorégraphie. C'est un vrai pied de nez à la législation, malgré un grand éclat de collectif pour tout le monde. Donc on sort avec de la légèreté, des questions plein la tête et le sentiment d'avoir assisté à quelque chose de rare. Un spectacle capable de traiter un sujet complexe sans jamais perdre le plaisir du jeu. Au fond, Olga Dukovna nous rappelle une chose essentielle. L'originalité pure est peut-être un mythe. Nous sommes toujours, d'une certaine manière, les héritiers de quelqu'un. Un spectacle qui prouve une chose, même quand la loi trace des lignes, les artistes trouvent toujours une façon de danser dessus.
Alors en tout cas, si vous faites une fête privée et que vous dansez sur le Single Ladies de Beyoncé, vous avez le droit.
Tout à fait.
Évidemment. On l'écoute justement un petit peu Beyoncé, l'un des clous de ce spectacle de Olga Dukovna vu pendant Waterproof. On te retrouve Nadia juste après pour nous parler de Up par Fouad Boussouf.
Can't think.
Nadia nous fait quelques retours sur l'édition 2026 du festival Waterproof qui vient de s'achever. Là, tu as pu voir aussi Up par Fouad Boussouf.
Alors, Fouad Boussouf, j'ai été très marquée par une pièce précédente que j'avais découverte pendant les transmusicales, à l'époque où il y avait encore de la danse aux transmusicales. Cette pièce s'appelait Nas. J'avais beaucoup aimé cette chorégraphie. Là, Up, c'est un duo singulier entre un violoniste et un virtuose du foot freestyle qui vont se rencontrer sur scène pour faire dialoguer leurs disciplines. Le spectacle transforme littéralement le plateau en terrain de jeu riche de surprises et il explore la relation intime que chacun entretient avec son instrument. Le ballon pour l'un, le violon pour l'autre. Et il faut le dire, certaines images frappent immédiatement. Le ballon qui tourne au bout de l'archet, presque cosmique, les regards complices entre les deux interprètes, la musicalité est réelle, la fluidité impressionnante. Le joueur donc de foot freestyle, Paul Molina, enchaîne des figures plus acrobatiques les unes que les autres dans une discipline proche du jonglage et d'une explosivité étonnante. Alors oui, on est souvent ébloui, mais justement, là où j'attendais une écriture chorégraphique plus affinée, j'ai parfois eu le sentiment que la prouesse prenait le dessus sur la danse. Le festival de figures impressionnantes se déploie sous nos yeux. Alors on admire, on applaudit, on reste évidemment un peu à distance. Le rapprochement entre ballon et violon est une très belle idée, presque une métaphore des mondes qui se rencontrent. Le spectacle cherche d'ailleurs, comme le dit Fouad Boussouf, à frictionner les esthétiques pour observer leur alchimie. Pourtant, cette alchimie m'a semblé davantage relever de la performance que d'un véritable vertige chorégraphique. Alors oui, le duo est élégant, c'est sensible, c'est même parfois drôle. Oui, Fouad Boussouf confirme son attention de la relation à la rencontre. Mais je suis un peu restée sur ma faim parce que je gardais en mémoire justement la puissance collective de Nas. Peut-être aussi parce qu'ici, le geste sportif, il est fascinant, mais il finit par occuper une place et un espace plus important que le geste dansé. Cela n'empêche que le public, notamment les plus jeunes, puisqu'il s'agissait d'un spectacle à partir de 7 ans, d'être littéralement émerveillé. Il y a quelque chose de réjouissant dans cette capacité à décloisonner les disciplines. Simplement, pour moi, Up impressionne davantage qu'il ne bouleverse. Et au fond, je suis sortie avec cette question, à quel moment la virtuosité devient-elle danse ?
Je n'ai pas vu le spectacle Abîme de Linda Efford pendant le festival Waterproof, mais à la lecture de la présentation, c'est cette musique qui m'est venue à l'esprit, la musique du film It Follows par Disaster Piece, une musique d'un film d'horreur au ralenti. Et je crois que le slow motion est présent dans le spectacle de Linda Efford.
Tout à fait, Yann. Abîme nous plonge dans un univers à la frontière du réel et de la science-fiction. Sur scène, cet interprète compose une communauté d'êtres presque mutants reliés par un langage chorégraphique commun qui est le shifting pop. C'est une écriture issue du popping. Cette danse qui est née dans les années 70 en Californie, qui est reconnaissable par ses contractions musculaires très rapides qui donnent au corps un aspect presque mécanique, comme traversé par des décharges électriques. Et il faut le dire immédiatement, Linda Efford est une virtuose de cette danse. Son solo marque d'ailleurs durablement la rétine. Le corps semble se fragmenter, ralentir, se déprogrammer, se reprogrammer sous nos yeux. On pense parfois évidemment au cinéma, aux jeux vidéo, puis à des créatures en pleine mutation. La lumière joue aussi un rôle essentiel dans cette pièce, avec un dispositif de miroir et des faisceaux très sculptés. Ça révèle les corps autant qu'elle les transforme. Certaines images sont d'une grande puissance plastique. Mais cette beauté s'accompagne aussi d'un parti pris plus déroutant, celui de la pénombre. Une obscurité parfois si dense qu'elle empêche pleinement de saisir la finesse des mouvements. Ça peut être un peu paradoxal pour une danse aussi précise que le popping. Car le popping, c'est aussi une danse du détail, de l'isolation, du micro-événement musculaire. Chaque vibration compte, et lorsque l'œil ne peut pas capter une part de cette virtuosité qui nous échappe, c'est un peu dommage. Ce qui frappe également, c'est le rapport au groupe. Là où on pourrait attendre une dynamique collective très incarnée, Abim donne plutôt à voir une constellation de solitude. Les danseurs évoluent ensemble, mais rarement en lien physique. Peu de duos, très peu de corps à corps et évidemment pas de sol. Un choix cohérent avec ce monde d'êtres hybrides qui installe une espèce de froideur. On admire beaucoup le geste, on est stimulé par la beauté plastique des corps, mais l'émotion reste parfois à distance. Et pourtant, dès que le groupe se forme, dès que les corps respirent ensemble, quelque chose circule immédiatement. La musique, particulièrement travaillée, agit alors comme une force souterraine qui relie tout. On comprend que Linda Efford explore ici la métaphore. Comment exister ensemble tout en restant irréductiblement singulier ? Alors oui, Abim est peut-être moins une pièce qui enveloppe qu'une pièce qui intrigue, moins une expérience sensible qu'un paysage à observer, mais elle confirme une chose. Linda Efford est une chorégraphe à la signature très affirmée, capable de créer des images fortes et un langage immédiatement reconnaissable. Au fond, Abim nous laisse aussi avec une question. Dans un monde où chacun semble évoluer dans sa propre trajectoire, comment faire encore communauté ?
Eh bien, vous le saurez peut-être en participant à des propositions l'année prochaine au Festival Waterproof. Allez savoir, ce festival de danse qui se déployait grâce à Danse à tous les étages, à l'Opéra de Rennes, au Triangle et à l'Intervalle. Vous retrouverez toutes les informations. C'est passé maintenant, mais voilà, ça vous permettra de connaître déjà et de le mettre dans vos marcopages, le site festival-waterproof.fr pour l'édition 2027. Merci Nadia, à bientôt.
À bientôt.
Dans la session Info Concert du jour, deux événements se déroulant ce mercredi 11 février. Le premier, initié par From Town to Town, c'est à Grabuge, où ils recevront The Surf, ce qu'on va écouter dans un instant. Et puis, le second, c'est le concert Gina numéro 6, avec Unag Haynes, Chien Fer et New Eight au Bistrot de la Cité. On écoute tout d'abord les Surfs, avec un E, je vous en reparle juste après. We'll be right back. The Surfs à l'instant avec un E, hein, pas comme des surfeurs, non, plutôt comme des esclaves, hein, des hommes étouffés, les serfs. Donc Cold Hand in Mine, fantastique morceau que peut-être vous entendrez jouer par eux le 11 février lors de leur passage à Grabuge grâce à From Town to Town. Ce sera pour la 55e Psych Session de From Town to Town. Une autre ambiance vous attendra peut-être le même soir du côté du Bistrot de la Cité, puisque c'est la soirée Gina qui vous propose une soirée de concert à dominante meuf et personne queer. C'est comme ça que se présente Gina. Et bien vous retrouverez Unag Ain, si vous l'avez raté, l'anglaise basée à Redon du côté des transmusicales. Oui, et vous allez entendre une musique électronique un peu abrupte peut-être, mais parfois qui va vers le folk, c'est tout à fait étonnant, avec des voix étranges, très masculines pour celle qui va suivre. Ça se balade entre R&B, cloud rap ou doom metal, oui, tout ça mélangé de musique électronique. On écoute Unag Ains avec le titre Loaded Gun. C'est le 11 février au Bistrot La Cité.
Myself and avoid me in you, so I can shoot myself and avoid me in you, so I can shoot myself and avoid me in you.
Chien de Fer et ses morceaux qui sont dus pour certains à des adaptations de poèmes de Griselidis Réal. C'est accompagné d'un banjo saturé et d'une boîte à rythme, mélange country punk chanté en français. Ça vient de Bruxelles, Chien Fer, et vous retrouverez Chien Fer le 11 février au Bistrot de la Cité. Et puis il y a aussi New Eight pour ses rencontres entre musique industrielle et puis chant traditionnel d'Occitanie. On écoute justement un de ces mélanges-là, la Despartida, version acoustique avec un harmonium par New Eight. Et c'est avec un extrait seulement de ce long titre, La Despartida de New Eight, que se termine la session Infoconcert et l'émission Le Grand Tout. On se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures, oui, sur Canal B. Ciao !